Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Nouveau contrôle sur les citoyens, tribunaux fermés, désengorgement des prisons. La justice aussi a été impactée par l'épidémie Covid-19. En Italie, la crainte du virus a même entraîné un véritable fiasco politico-judiciaire. Pour éviter la propagation de la maladie et les menaces qu'elle fait peser sur les prisonniers, plusieurs chefs de la mafia, et non des moindres, ont été libérés. L'opposition n'a pas tardé à dénoncer un scandale et à réclamer la démission du ministre de la Justice. Retour sur un incroyable feuilleton avec Éric Senanc à Rome.
Tout a commencé par un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux le 22 avril dernier par celui qui en est l'un des spécialistes en Italie, Matteo Salvini. Dans une vidéo enregistrée depuis son domicile où il est confiné, le chef de file de l'opposition italienne revient sur ce qui fait scandale depuis quelques jours dans la péninsule.
Je suis vraiment furieux. Au nom du virus, le gouvernement fait n'importe quoi. Mais là, cela dépasse les bornes. C'est un scandale national. Francesco Bonura, boss de Palerme, condamné à 23 ans et mis à l'isolement comme l'un des chefs mafieux les plus dangereux, est sorti de prison. Il est maintenant chez lui, avec sa femme. Ce n'est pas comme cela que l'on combat le virus. C'est une honte.
Fin mars, en plein confinement, le département de l'administration pénitentiaire italien publie une circulaire visant à protéger la santé fragile de certains détenus. Près de 400 prisonniers peuvent alors quitter leur cellule et terminer leur peine assignée à domicile. Problème, trois d'entre eux, dont celui cité par Matteo Salvini, sont des noms qu'aucun Italien n'aurait souhaité entendre, des parrains de la mafia particulièrement dangereux. Détenus sous le régime spécial 41 bis, un isolement de haute sécurité qui leur coupe tout contact avec l'extérieur, ils peuvent désormais quitter leur cellule. Parmi eux, Pasquale Zagaria, boss de la Camorra napolitaine, l'un des plus redoutés d'Italie, qui a pu sortir de prison car atteint d'un cancer. Giovanni Bianconi est journaliste spécialiste des questions judiciaires au Corriere della Sera.
Zagaria était surnommé Ben Laden, car il n'arrêtait pas de s'enfuir. Il a finalement été capturé en 2006 après des années de cavale. Sa sortie de prison a provoqué une grosse polémique parce que l'administration pénitentiaire n'a pas anticipé une solution alternative à l'assignation à domicile.
Zagaria, comme les autres chefs mafieux, aurait dû en effet être soigné dans des hôpitaux pénitentiaires, mais certains, reconvertis en unité Covid, n'avaient plus de place. La libération de Zagaria provoquait un tollé en Italie, entraînant la démission le 30 avril du chef de l'administration pénitentiaire italienne, Francesco Bassentini. La suite est un rétropédalage du gouvernement. Le 10 mai, le ministre de la Justice, Alfonso Bonafede, fait passer un nouveau décret renvoyant les mafieux derrière les barreaux. Mais à ce jour, ils n'ont toujours pas regagné leur cellule. Le décret prévoit en effet une évaluation complexe de leur état de santé avant toute réincarcération. Bonafede a concentré sur lui les critiques de toute l'opposition, de gauche jusqu'à l'extrême droite. Deux motions de défiance ont été déposées contre lui, finalement rejetées le 20 mai. Devant le Sénat, Alfonso Bonafede a été contraint de se défendre de tout laxisme.
Il est complètement faux de donner l'image d'un gouvernement qui aurait ouvert toutes grandes les portes des prisons, même aux prisonniers les plus dangereux. Regardons les faits. La réduction de la population carcérale en Italie a été, dans l'écrasante majorité des cas, l'application de lois en vigueur depuis des décennies et qu'aucun gouvernement n'a jugé bon de changer.
Cette crise sanitaire en Italie a révélé ainsi les failles d'une justice italienne très bureaucratique et les lourdeurs de l'administration pénitentiaire. Mais la question des mafieux emprisonnés est particulièrement complexe, souligne Claudio Paterniti, membre de l'Observatoire des prisons Antigone.
Il s'agit de garantir deux droits absolument nécessaires. D'un côté, il y a la nécessité de garantir la sécurité de la collectivité, puisque effectivement, il s'agit de détenus qui sont accusés ou condamnés pour des crimes très graves. Mais de l'autre côté, il s'agit aussi de garantir des droits inscrits dans la Constitution et dans toutes les conventions internationales, comme le droit à la santé pour tous et de manière absolument indépendante du crime qui a été commis ou pour lequel on est accusé.
Pour Claudio Paterniti, cette polémique autour des prisonniers mafieux et l'instrumentalisation politique de l'opposition qui en a été faite n'a pas aidé la justice italienne à mieux fonctionner.
Ils ont amplifié cette sensation d'insécurité, de système qui n'est pas capable de protéger la collectivité. Donc maintenant, on peut se demander si un juge aura la même sérénité lorsqu'il devra évaluer une demande d'assignation à domicile pour des raisons de santé. Non pas forcément lorsque cette demande vient de la part d'un mafieux, mais de la part de n'importe qui.
La mafia, elle, n'a que faire de ces polémiques et continue à tisser ses réseaux et étendre son influence sur la société hors des murs de la prison. Elle n'a pas attendu la crise économique et sociale en Italie pour gagner du terrain. Dans la région de Naples, par exemple, où selon l'association antimafia Libera, la Camorra profitait du confinement pour livrer des colis alimentaires à des familles modestes et acheter la confiance de nombreux foyers. Giovanni Bianconi.
C'est sûr que c'est un risque en Italie avec les organisations criminelles qui vont vouloir exploiter la crise économique. Il suffit de penser aux trafiquants de drogue qui ont une grosse disponibilité de liquidités et qu'ils pourraient réinvestir et recycler en sauvant des activités économiques en difficulté après le confinement. Si j'ai de l'argent à investir et qu'un restaurant est en difficulté, je vais voir le patron et je lui rachète son commerce en payant cash.
Autant d'opportunités qui seront sans doute plus nombreuses les mois à venir avec la crise économique et sanitaire.
Au Portugal aussi, on a évité que les prisons ne deviennent des foyers de propagation de la maladie. 2200 prisonniers ont donc été libérés avant la fin de leur peine. Mais pour certains, cette sortie n'avait pas été préparée, sans logement, sans proches pour les accueillir. Ils ont élu domicile dans le camping du parc Monsanto, au nord de Lisbonne. Une solution, là encore provisoire, Marilyn Darcy.
Ils sont une quarantaine à avoir trouvé refuge au camping de Monsanto. Le camping ombragé de pins et d'eucalyptus a été choisi comme une des solutions pour accueillir quelques-uns des ex-prisonniers. Parmi eux, certains ont été infectés par le coronavirus. Ils sont placés en isolement dans les bungalows du parc. Monsanto est par ailleurs l'un des sites de semi-confinement des soignants intervenant auprès des malades du Covid-19 et qui ne sont pas autorisés à rentrer chez eux pour ne pas propager l'épidémie. Le voisinage avec d'anciens prisonniers ne pose pas problème, le camping est vaste. L'opération de désencombrement carcéral pour faire face à l'épidémie a eu pour conséquence de laisser certains prisonniers dans la rue. Anticiper de 2 ans leur libération ne leur a pas permis de s'organiser et certains n'ont pas de famille ou d'endroit où aller. Parfois, les situations sont encore plus compliquées, comme celle de ces 3 détenus, originaires de l'archipel des Açores, au milieu de l'Atlantique. Leur rapatriement ne pourra se faire que sous escorte de l'armée de l'air, chargée d'un pont aérien avec des îles confinées. Au parc de Monsanto, ce sont les pompiers et une association de réinsertion d'anciens détenus qui ravitaillent les campeurs un peu spéciaux de Lisbonne. Les autorités et les ONG travaillent à des projets de réinsertion, car si ces ex-détenus ont été libérés pour cause d'un virus, ils pourraient facilement se retrouver prisonniers de mauvaises conditions de vie. Avec le déconfinement progressif au Portugal, les campings sont désormais autorisés à rouvrir. Il va donc falloir rapidement trouver des solutions pour éviter une cohabitation entre les anciens détenus et les vacanciers. C'est une question de temps avant que ces derniers reprennent le chemin du joli parc forestier.
Et Covid ou pas, le parti ultra-conservateur PiS au pouvoir en Pologne a continué systématiquement la mise au pas de la justice du pays. Après le tribunal constitutionnel, le bureau du procureur, la présidence de dizaines de tribunaux et le Conseil national de la magistrature, désormais très proche du gouvernement, malgré les sanctions et les avertissements de la Cour de justice européenne, c'est désormais la Cour suprême qui tombe dans le giron du parti PiS, tout un symbole pour ce dernier bastion de la justice indépendante. Sa nouvelle première présidente vient d'être nommée lundi, Thomas Giraudeau.
Ce n'est une surprise pour personne ici. La nouvelle présidente de la Cour suprême est une proche du pouvoir. Małgorzata Manowska a été nommée à la tête de l'institution judiciaire la plus puissante du pays pour 6 ans par le président polonais. Pour Paulina Krzyszkowska-Knapik, avocate et membre de l'initiative Tribunaux Libres, la magistrate a l'étiquette du PiS, le parti au pouvoir.
C'est une juge compétente. Elle l'a toujours été. Elle a évidemment fait des études de droit, mais elle dirige depuis 4 ans l'École nationale de la magistrature, où elle est subordonnée au ministère de la Justice. Son patron est donc l'actuel ministre. Au sein de cette école, elle empêche les magistrats qui défendent l'indépendance de la justice d'enseigner aux étudiants. Et puis, elle a été vice-ministre de la justice en 2007 sous un précédent gouvernement du PiS. Donc, elle est complètement positionnée politiquement.
Affiliation 100%.
Małgorzata Manowska assume ses bonnes relations avec l'actuel ministre de la Justice et assure qu'elle n'a jamais été influencée dans son travail de juge par le pouvoir politique. Mais pour l'avocate, l'indépendance de la Cour suprême est quand même clairement menacée.
C'était la dernière cour de justice indépendante en Pologne. Maintenant, la Cour suprême polonaise ne sera plus considérée à l'international. Les membres encore indépendants de la Cour seront probablement harcelés. C'est ce qui arrive aux juges des tribunaux ordinaires, depuis que les présidents des cours sont orientés politiquement et proches du pouvoir. Donc si l'Union européenne permet cela dans un aussi grand pays que la Pologne, alors c'est la fin de l'état de droit.
Un peu moins alarmiste, le constitutionnaliste et professeur à l'université de Varsovie, Marcin Maciak, précise qu'actuellement, une petite majorité des juges de la Cour suprême sont encore indépendants du pouvoir politique. Ce sera difficile pour la nouvelle présidente de contrôler, de discipliner cette cinquantaine de magistrats, mais les prérogatives de Małgorzata Manowska restent très larges.
La première présidente de la Cour suprême peut contester une loi devant le tribunal constitutionnel. Elle est aussi la présidente du tribunal d'État, le seul compétent à juger les responsables politiques sur leur respect de la Constitution, y compris le président de la République. Donc c'est plutôt confortable d'avoir comme futur juge de son propre procès un magistrat fidèle, loyal.
L'opposition, si elle est élue lors des prochaines élections, menace en effet de mettre devant ce tribunal d'État le président Andrzej Duda pour avoir violé la Constitution à de multiples reprises. Le parti au pouvoir se prépare donc à ce possible revers de fortune en nommant une fidèle à la tête de la Cour suprême. Et pour y arriver, il a dû progressivement placer ses pions au sein même de la Cour. Anna Wojcik du site d'information sur les réformes judiciaires en Pologne, ruleoflaw.pl.
Le pouvoir politique a créé deux nouvelles chambres à la Cour suprême. Une chambre disciplinaire qui traite des procédures disciplinaires engagées contre des juges. Et une chambre extraordinaire des affaires publiques qui peut notamment invalider des élections. Ces deux chambres ont été remplies uniquement de juges nommés par le président Duda. Donc, il y a de plus en plus de nouveaux magistrats à la Cour suprême, même s'ils sont toujours minoritaires.
Ces juges loyaux ont soutenu la candidature de Małgorzata Manowska à la tête de la Cour suprême, soutien indispensable pour que le président Duda puisse la nommer à ce poste. Des motivations purement politiques donc pour Anna Wojcik, bien loin des réformes nécessaires.
Ces changements ne répondent pas aux problèmes actuels du système judiciaire polonais. Des procédures, des instructions trop longues, une organisation des tribunaux à revoir. En fait, tout cela, c'était pour mettre aux responsabilités des personnes bienveillante envers le pouvoir.
Même le tout-puissant chef du PiS l'a assumé dernièrement lors d'une interview à la radio polonaise. Jarosław Kaczyński a déclaré que la Cour suprême devait être profondément transformée, y compris en termes de personnel.
Et pendant les mois de confinement, certains États ont eu la main lourde avec les contrevenants. C'est le cas de la Roumanie. Les citoyens qui sortaient de chez eux sans autorisation ont écopé de très lourdes amendes, trop lourdes, entre 420 et 4200 euros. Absurde dans un pays où le revenu mensuel moyen est de 450 euros, la Cour constitutionnelle vient donc de dire que ces amendes ne respectaient pas la Constitution. Mais ce n'est pas la fin de l'affaire. À Bucarest, Benjamin Ribou.
En qualifiant les amendes distribuées par la police d'anticonstitutionnelles car non proportionnées au niveau de vie du pays, la Cour constitutionnelle a mis fin à la promesse d'une cagnotte gouvernementale de 120 millions d'euros. Elle a aussi enclenché un véritable casse-tête juridique qui frise l'absurde, car tous les citoyens concernés vont devoir contester leurs amendes au tribunal. Dan Nikoski, avocat au barreau de Cluj-Napoca.
Suite à cette décision de la Cour constitutionnelle, 300 000 dossiers vont devoir passer devant la justice et ce travail va terriblement peser sur les 2300 magistrats du pays. Par rapport aux autres pays européens, les juges en Roumanie ont à traiter, en temps normal, un nombre bien plus important de dossiers. Et aujourd'hui, les instances doivent déjà rattraper tous les procès suspendus ces trois derniers mois, auxquels il va donc falloir rajouter ces 300 000 procès concernant les amendes.
Les Roumains ont jusqu'au 30 mai pour contester leur amende ou 15 jours après en avoir accusé réception. Les tribunaux roumains n'auront qu'un mois de relâche cet été, en août, contre 2 mois d'ordinaire. Et pour les finances publiques, la note risque d'être salée.
Il va falloir rembourser celles et ceux qui ont déjà payé leurs amendes, mais il va aussi falloir payer les frais juridiques, les honoraires des avocats et la taxe du timbre d'une valeur d'un peu moins de 5 euros. Si on regarde la situation économique du pays, je pense que ce sont là des coûts qu'il serait préférable d'éviter.
Autant dire une perte de temps et d'argent, l'opposition au Parlement planche sur un projet de loi pour amnistier purement et simplement les contrevenants.
Et les questions de distanciation sociale ont largement perturbé 2 procès phares qui avaient débuté aux Pays-Bas. Tout d'abord celui des victimes du vol MH17 de la Malaysian Airlines, probablement abattu par des séparatistes russes au-dessus de l'Ukraine, mais aussi le procès le plus médiatisé de ces dernières années, celui d'un gang de la cocaïne, accusé non seulement de trafic de drogue, mais aussi de l'assassinat de l'avocat Dark Wirsum. Il a fallu s'adapter aux Pays-Bas. Antoine Moutot.
Goedenavond. Ridwan Taghi is opgepakt in Dubai.
C'est l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire récente des Pays-Bas, celui de Ridwan Taghi, chef supposé de la mafia locale de la cocaïne, et de 16 autres personnes. Depuis l'arrestation en décembre dernier à Dubaï du très recherché suspect numéro 1, les audiences se déroulaient sous haute protection policière. Il faut dire que depuis l'assassinat de l'avocat Dirk Wirsum, pour la première fois, des avocats plaident dans l'anonymat. Mais voilà, le Covid-19 est passé par là et désormais ce sont les avocats des accusés qui dénoncent leurs mauvaises conditions de travail. À la mi-mai, 5 d'entre eux ont même menacé de boycotter le procès. Bénédicte Fick est l'une d'entre eux.
On a dit qu'on ne voulait pas être présent à l'audience si nos clients ne seraient pas à l'audience. Et si nos clients ne pourraient pas écouter ce qui se passe dans les audiences des autres. On ne veut pas légitimer un procès où la défense est manquée et où nos clients ne peuvent pas consulter leur avocat à l'audience. C'est un droit humain.
Selon cet avocat d'Amsterdam, les restrictions sanitaires actuelles bafouent les droits fondamentaux des suspects, alors que certains d'entre eux encourent la perpétuité.
Nos clients sont en prison et ils ont alors la possibilité de suivre leur audience pendant 3 quarts d'heure, c'est pas beaucoup, même si l'audience dure toute une journée, il leur manque de pouvoir voir ce qui se passe, ce que le procureur dit, ce que les autres avocats disent, ce que les juges disent.
Et ce ne serait pas le seul problème.
Ce que nous avons pas accepté, c'est que les juges nous ont demandé d'envoyer notre plaidoirie en écrit, en avant de l'audience, et que les juges répéteraient ce que nous avons mis dans notre plaidoirie, mais seulement un résumé.
Face à la médiatisation et aux menaces de boycott, les juges ont finalement accepté de lâcher du lest en autorisant au compte-goutte les suspects au tribunal, par peur peut-être aussi de se voir reprocher plus tard d'importants vices de procédure.
Verder in het nieuws vandaag. Indrukwekkend begin van het strafproces rond de MH17-ramp.
Après une fermeture de plusieurs semaines en raison du Covid-19, les tribunaux rouvrent doucement leurs portes depuis la mi-mai. Mais de nombreux procès ont été chamboulés, comme celui du fameux dossier MH17. Près de 6 ans après l'explosion de l'avion de la Malaysia Airlines dans le ciel de l'est de l'Ukraine, le procès s'était ouvert début mars aux Pays-Bas, pays d'origine de la majorité des près de 300 occupants de l'avion et donc des victimes. Un tribunal ultra-sécurisé de Schiphol devait juger par contumace 4 suspects, 3 ressortissants russes et un ukrainien. Selon une enquête internationale, le Boeing aurait été détruit par un missile Buk de fabrication russe tiré par une unité indépendantiste pro-russe déployée dans l'est de l'Ukraine, zone toujours en conflit. En raison de la pandémie, des audiences ont eu lieu à huis clos, sans même la présence des familles des victimes.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. On se retrouve sur les réseaux sociaux très vite et de demain pour parler avion, voiture, train et vélo, tout ce que l'épidémie a changé dans nos modes de transport.